recentrer le contrôle de votre radio.
Le contrôle de votre radio. Il semblerait que ce soit un putsch radiophonique.
Un putsch à la radio.
Ensemble.
Ensemble.
Nous avons pris le contrôle.
Nous avons pris le contrôle de l'antenne d'RMC.
Radio Brunet.
C'est Radio Brunet.
Nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Radio Brunet, c'est tous les jours de 13h à 15h sur RMC.
Alors, chers amis, moi, je n'ai jamais aimé les collectionneurs. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que je pense des gens qui gardent tout. Alors, on a fait le tour de la rédaction aujourd'hui pour vous recevoir, Guillemette Faure, vous qui êtes l'auteur de « Ça peut toujours servir ». Un bouquin, ça peut toujours servir. Mmh. C'est vrai. Hein. Mais une fois qu'on l'a lu, on l'a lu. Hein. C'est paru chez Stock. Et donc, vous nous racontez les tiroirs, les armoires. Pourquoi est-ce qu'on garde tout ça? Pourquoi est-ce qu'on garde un peu notre mémoire, hein, d'une certaine façon? Enfin, on a une heure pour en parler. On va en parler aussi avec Pauline Levasseur, qui est « Home Office Organizer ». Vous voyez ce que ça veut dire, les copains,
hein?
Allez,
non.
Traduction simultanée.
Je parle très mal. Je parle très mal l'espagnol. Vas-y,
bon,
dis.
Ouais, elle vous aide. Elle est consultante en organisation, en rangement. Et elle est fondatrice du réseau By Pauline. Vous allez nous appeler au 3216. Vous allez nous dire si vous gardez les petits savons dans les hôtels, les mignonnettes de Ricard que vous avez dû piquer chez l'oncle, la tante, je ne sais quoi. Le papier cadeau, hein. Ah, ça, c'est formidable. Le papier cadeau et les petits sacs. On t'amène un cadeau. Tu vas plier le papier cadeau, tu vas le mettre dans un coin.
En décollant les bouts de scotch.
En décollant. Mmh. Bah, alors, avec, comment dire, précision, hein, et avec attention.
C'est tout un art, hein.
Attention. C'est tout un art, faut que ça puisse resservir. Voilà. Ça peut toujours servir. Bien, alors, c'est le brunimétrie du jour, mais avant de donner la parole. Non, tiens, on commence avec ça. Oui. Le brunimétrie du jour. Alors, vous appelez au 3216 et vous manifestez sur ce sujet. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ben, j'aimerais bien le savoir.
Eh bien, pour ce deuxième brunimétrie, vous gardez tout en espérant que cela puisse vous servir un jour. Pascal, lui, est partisan de jeter les objets inutiles.
Oui, je pense au fond de moi-même que vous êtes de grands malades. On va essayer de vous le démontrer. Alors, en deux mots, l'opération que nous menons en direction des artisans.
Nos amis artisans à qui l'on dit...
En quelques mots,
voilà,
s'il te plaît.
N'oubliez pas de vous inscrire, amis artisans, au concours national des meilleurs artisans de France qu'organise RMC. On a 7 catégories qui ont été retenues. Donc, si vous êtes Carl, plombier, peintre décorateur, mécanicien automobile, fleuriste, menuisier ou cuisinier, inscrivez-vous dès maintenant sur rmc.fr. Les inscriptions se clôturent le 11 mai, donc ne perdez pas de temps et on vous mettra à l'honneur très prochainement dans Radio Brunet. Vous avez donc toutes les informations sur rmc.fr. Il n'y a plus qu'à.
Voilà, dans un petit instant, que faites-vous? Est-ce que vous gardez? Est-ce que vous jetez? Moi, ma religion est faite, je jette.
Accumuler des objets relève parfois de la pathologie.
Il y a de la laine, il y a des poches plastiques.
Elle est atteinte de stylogomanie, un trouble de l'accumulation compulsive.
On retrouve des piles qui font 2-3 mètres de hauteur et puis parfois les personnes n'arrivent même pas à accéder à leur lit.
Pour elle, faire le tri, c'est au-dessus de ses forces.
Ben quand je jette, c'est un peu moi, si vous voulez qu'on jette.
Jusqu'en 2013, considérée comme un TOC, la stylogomanie est désormais reconnue comme une pathologie à part entière.
Alors c'est une maladie, pathologie égale maladie pour moi, et Benjamin, les Français, si je puis dire, sont de grands malades parce qu'ils ont tendance à entasser quand
oui,
même.
Oui, oui, parce qu'à nos appartements, nos maisons contiennent 3 fois plus d'objets que dans les années 60. Résultat, plus d'un Français sur deux estime manquer de place pour stocker ses affaires, selon une étude réalisée par Opinionway. Du stylo qui ne marche pas au demi-citron dans le frigo, en passant par les vieux chargeurs d'appareils qu'on a déjà jetés, hein. On entasse, vous l'ignorez peut-être. Mais effectivement, cette maladie porte un nom, la stylogomanie, le fait d'accumuler des objets de manière compulsive sans parvenir à s'en séparer, et ça toucherait jusqu'à 5% de la population en France, à des degrés divers bien sûr. Nos intérieurs sont tellement surchargés que l'on observe une explosion d'un marché, celui des entrepôts de stockage, marché en croissance de 15% par an en France, quand même considérable. On va donc en parler avec notre invité Guillemette Faure pour son livre intitulé « Ça peut toujours servir » et tenter de comprendre avec elle pourquoi nous avons tant de mal à nous séparer de l'inutile et surtout comment s'en sortir. Il y a des solutions qui existent, on vient de l'évoquer, un métier est même apparu récemment, celui de coach en rangement. Nous en avons une justement en plateau, donc on va lui poser plein de questions pour trouver des solutions.
Voilà, Guy Medfort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste chroniqueuse à M. M, c'est le magazine du Monde.
Monde du
qui est très bien à lire, d'ailleurs, franchement. c'est une de mes lectures préférées du week-end. Spécialiste de l'observation des TOC, et puis Pauline Levasseur est là. Elle est consultante en organisation, en rangement, fondatrice du réseau By Pauline. Alors, j'en viens à votre bouquin. Quand je l'ai parcouru, je l'ai pas lu intégralement, mais je l'ai parcouru quand même de façon un peu précise. J'ai repensé à quelqu'un que je connais. Pour rentrer chez lui, il a un couloir. Pour rentrer chez lui, il a mis des objets à droite, à gauche. Alors, il y a tout. Des amortisseurs, des boulons, des prises électriques. Il faut pratiquement se faufiler. Oui. Vous voyez, ça existe vraiment, il y en a beaucoup comme ça.
Alors ça, c'est les cas extrêmes. Vous parliez tout à l'heure de 3%. Mais la vérité, c'est que si on demande aux gens qui chez lui a un tiroir bourré de chargeurs dont il ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il recharge et quelle est la dernière fois qu'ils ont servi. Là, on a à peu près tout le monde. Si on demande qui a chez lui un pot de crayon dans lequel tout le monde prend un crayon, essaye d'écrire un petit peu, s'aperçoit qu'il marche pas très bien et repose le crayon. Ouais. Là aussi, on a à peu près tout le monde. Je parle de couvercles de Tupperware sans Tupperware, de clés dont on ne sait plus qu'elles ouvrent, de cadenas sans clés ou alors de clés sans cadenas. Enfin, vous parliez de...
Mais garde-la, Germaine, un jour, on sait jamais, ça peut servir.
Non, et puis, comme une fois, en 1998, on avait gardé une chose qu'on a eu raison de garder, au nom de cette petite chose qu'on avait gardée à raison, du coup, on estime normal d'avoir des cartons et des cartons et des tiroirs et des tiroirs de choses qu'on utilise plus.
Bon. Est-ce que tu as des choses que tu n'utilises plus, Benjamin?
Moi, ouais, je suis un grand spécialiste du stylo qui ne marche pas quand même. Chez les Smadja, c'est la... Ça, c'est le petit travers. Et puis, sur le court terme, effectivement, le demi-jus de citron reste pendant des jours dans le frigo en se desséchant, tristement.
Est-ce que, Pauline Levasseur, vous qui êtes consultante, c'est sérieux ce que vous faites, vous pouvez quelque chose pour la famille Smadja ou pas?
Oui, évidemment, on peut quelque chose. En fait, il y a des mécanismes très simples à mettre en place et c'est l'objet de notre métier. Notre métier, c'est déjà de vous aider à mettre en place une organisation qui tourne et qui soit facile à suivre, mais c'est aussi de vous aider à désencombrer et à faire des choix. Alors on fait des choix positifs, on choisit les objets avec lesquels on a beaucoup d'intérêt, d'interaction, et on arrive comme ça à catégoriser en fonction de l'utilité, de la fréquence d'utilisation et de l'état.
D'accord. Cyril nous a appelé au 3216 en Gironde. C'est le Puy-en-Médoc, c'est ça ?
Le Puy-en-Médoc, ouais, c'est au nord de Bordeaux.
Bon, très bien. C'est un endroit où il est agréable de vivre, non ?
Ouais, il y a du bon vin.
On y collectionne des choses dans les caves. Bon, 38 ans, Cyril est pas d'accord avec moi aujourd'hui.
Non, pas d'accord, après, ça reste mon choix, mais moi je garde tout. C'est-à-dire que j'ai du mal à me débarrasser des objets, je les entache, je les entrepose, même si je m'en sers jamais, je me dis que ça pourrait servir à un moment donné. Ça prend de la place, ça embête ma famille, ça embête mes amis, c'est toujours un petit problème, mais j'y arrive pas. Et encore le week-end dernier, je me suis dit, faut que je fasse un vide. Allez, j'essaye, je me lance, je me motive, je vide le garage entièrement.
Et vous rerangez tout ce qui vous est sorti dans un ordre différent.
J'ai quasiment tout remis dedans. J'étais pourtant motivé au début à essayer de refaire de la place et j'ai quasiment tout remis à l'intérieur. J'ai rien jeté. J'avais jeté des choses que je suis allé récupérer dans la remorque pour les remettre et me disant, bon, prochain coup, cette fois, j'y arrive.
Guy Medfort ?
Oui, non, mais alors c'est marrant parce que là, Cyril parle de sa famille et moi, ce que j'ai remarqué en écrivant ce livre, c'est qu'il y a toujours, par exemple, dans le couple, il y a un jeteur et un gardeur.
Ouais.
Dans la famille, quand les parents sont jeteurs, les enfants sont gardeurs. Et je pense qu'on fait comme ça pour s'équilibrer parce qu'il y a un côté, si tout d'un coup, quelqu'un se met à tout jeter, l'autre se dit, oh là là, là là, il faut que je le contrôle un peu, je vais me mettre à garder. Et à l'inverse, quand il y a quelqu'un qui garde trop, l'autre dit, non, attends, je vais t'en débarrasser un petit peu. Donc chacun se donne des rôles entre celui qui garde et celui qui jette.
Mais Cyril, qu'est-ce qui vous a bloqué, qu'est-ce qui vous a retenu la main,
la boule au ventre.
Comment vous l'expliquez?
Allô?
Oui, Cyril. Je voudrais observer que Benjamin vous a posé une question.
Ah oui, mais comment, je sais pas, justement, j'aimerais bien comprendre cette situation, j'aimerais bien comprendre pourquoi déjà j'entrepose et je garde et que j'arrive pas surtout à les jeter. Je passe derrière ma femme quand elle fait le vide dans la chambre du petit ou dans ses affaires, je repasse derrière elle pour voir si elle a pas jeté des choses auxquelles on pourrait s'attacher, des choses comme ça. Donc j'ouvre les poubelles, je regarde, je récupère, je remets dans mon garage.
Ah oui.
Je sais qu'elle va jamais dans le garage.
Ah non, mais il va loin, Cyril, là.
Ouais. Règle numéro 1, ne jamais faire de tri en présence de quelqu'un d'autre.
Donc c'est ce qu'elle fait maintenant. Elle s'arrange pour que je puisse pas le voir, pas regarder. Et si je le vois pas, tout va bien, je m'en rends pas compte, j'y pense pas.
Il a... fou, hein. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui explique là la boule au ventre? Pourquoi est-ce que Cyril, bon, il prend les objets dans son garage, il les pose juste devant, il les range dans un ordre différent, mais il n'arrive pas à acheter un petit câble, un machin, un truc, des vis, une petite boîte avec des têtes d'écrou. On se dit, ah bon sang, ça pourrait peut-être me servir un jour, ça.
Mais parce que du point de vue de l'évolution, on a été programmé comme ça. C'est les chasseurs et cueilleurs en nous. L'espèce humaine qui s'en sort, c'est celui qui a le plus stocké, accumulé, qui est le mieux équipé. Sauf que du point de vue de l'évolution encore, aucun animal ne remplit son nid jusqu'à ne plus pouvoir y circuler. Aucun animal n'est obligé de louer un garde-meuble ou un espace de stockage pour mettre ce qui ne tient plus chez lui. Donc nous, on arrive à pousser ce réflexe instinctif jusqu'à rendre notre vie impossible et faire que les choses qui devaient nous servir finalement nous empêchent de vivre.
Ouais, c'est ça.
Bon, merci Cyril pour ce témoignage.
Merci à vous tous.
Non, mais faites quand même un petit effort. Hein, faites un effort pour vider au moins
prochaine
un petit
session,
bout.
Je fais un effort.
Un petit bout de votre.
Voilà.
Votre
demandez garage. À votre épouse et allez boire un café dehors. Soyez absent quand il y a du tri à la maison.
Commencez par les clous tordus. Les clous tordus, ils servent pas.
Les professionnels qui ont un œil neutre aussi. On a une vision très neutre des choses et ça aide beaucoup.
Bon, je suis avec Guy Medford, journaliste chroniqueuse à M, le magazine du Monde, qui est l'auteur de « Ça peut toujours servir » aux éditions Stock. Pauline Levasseur, qui est consultante en organisation, en rangement, fondatrice du réseau By Pauline. Et avec vous tous, hein, on parle de ces tocs, de vos petites manies, vous gardez tout, le papier cadeau, les boîtes, les emballages, les montres publicitaires, les petits savons.
Les petits pots en céramique dans lesquels il y a des Saint-Marcelin. Ça, par exemple... Ça s'entasse chez les gens.
Bah bon.
Les pots de yaourt en verre de la laitière.
Ah, très bien.
Toute l'idée que ça fera des petits bricolages ensuite pour la kermesse.
Ouais, ouais. Enfin, on appelle vous savez, les grosses bouteilles de champagne, c'est des Jéroboam, c'est ça?
Oui.
Quand on garde ça, on se dit, tiens, je vais faire un abat-jour avec. Quelle horreur. Préférer l'art moderne pour faire des choses simples. Bon, allez, Émilie, le brunimétrie du jour.
Eh bien, garder ou jeter, eh bien, vous êtes 70% à penser qu'il faut jeter les objets inutiles, comme Pascal.
C'est très bien. Alors, jeter hein, les objets inutiles qui ont eu une vie. Je suis pas pour le gaspillage, moi. Hein. Je suis pas pour l'obsolescence. C'est pas une émission sur l'obsolescence. Hein. C'est pas du tout ça. On en reparle dans un petit instant. Il est 14h et presque 18 minutes. Je vous attends au 32-16.
C'est que les cartes en version papier, parfois, elles peuvent être utiles.
Ça, c'est un chargeur de batterie. Elles sont entre 6 volts et 12 volts.
Vous avez une voiture?
Non.
RMC, Radio Brunet, Pascal Perry.
Vous gardez tout en espérant que ça puisse vous servir un jour. Alors, vous devez lire le livre de Guy Medford, « Ça peut toujours servir ». Pourquoi est-ce que nous avons du mal à acheter? C'est le sous-titre, c'est aux éditions Stock. Je suis avec l'auteur, Guy Medford, avec Pauline Levasseur, qui est consultante en organisation et en rangement. Et Michael qui nous a appelé de Clermont-Ferrand, on va le prendre dans un petit instant. Mais j'ai une question pour vous, Guy Medford. Est-ce que garder les choses, souvent c'est ce qu'on se dit, je vais les garder, ça pourra servir. Est-ce que garder, ça fait faire des économies?
Alors, garder, ça, en fait, on pense que les choses ont une valeur et que plus on a de choses de valeur chez soi, plus, grosso modo, on aurait de valeur comme si sa maison devenait un espèce de compte en banque potentiel.
Ouais.
Or, en fait, on oublie que les choses ont un coût. En fait, de la même manière que une voiture, il vous faut de l'entretenir. Les choses que vous avez chez vous, à partir du moment où il faut vous acheter un meuble supplémentaire pour les garder, il faut avoir une pièce supplémentaire.
Ils occupent de l'espace, bien sûr.
Par exemple, aux États-Unis, un garage sur quatre, on peut plus y mettre une voiture. Parce que les garages maintenant servent.
Est-ce que vous regardez de temps en temps cette série là sur une chaîne, je crois que c'est la numéro 23 qui diffuse, hein, c'est comment dire, découvreur de trésors, c'est-à-dire qu'on ouvre un box et puis on découvre qu'il y a tout un tas de trucs qui dorment là depuis des années.
Parce qu'en fait ma théorie c'est qu'il y a en ce moment une espèce de mode de l'esthétique du vide. Donc on a envie d'avoir des intérieurs avec de l'espace et en même temps on veut pas lâcher nos affaires. Donc du coup on a des espèces de purgatoires qui sont les caves, les greniers, les stockages qui nous permettent de se faire croire que on a de l'espace chez nous et en même temps ça évite, par exemple après une succession entre frères et sœurs, ça évite de se poser la question de qui prend, qui garde, etc. Ouais. Personne n'a la place, mais on se dit bon, on va le mettre au garde-meuble. Et simplement, au bout de 3 mois, tout ce qu'on a payé en garde-meuble ne vaut pas tout ce qui est à l'intérieur.
Bien sûr, Pauline Levasseur, il y a des freins qui existent. Parfois, la question c'est pas pourquoi. Je sais pourquoi je devrais jeter, mais c'est comment je fais.
Oui. Tout d'abord, on travaille beaucoup sur le don aussi, pour enlever ces blocages de culpabilisation. De dire ah mais jeter c'est mal, ça vous voyez, il y a aussi une culpabilité, il y a cette dimension. Donc nous on travaille beaucoup sur le don, il y a énormément d'associations aujourd'hui qui ont des besoins et donc on peut les aider de cette manière-là, mais c'est aussi une prise de conscience avant. C'est-à-dire que là on parle de l'entassement compulsif, mais on parle pas non plus de l'achat compulsif. C'est-à-dire que avant d'entasser, il faut aussi récupérer tous ces objets. Donc le process, il est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on prouve aux gens que on parlait de la valeur des objets, ce que Guillemette disait, il faut aussi leur faire comprendre que c'est de l'argent inutilisé quelque part qu'ils ont dépensé et qui sert à rien.
Ah, c'est de la trésorerie qui dort.
Exactement.
Ouais. Ouais. Mais le problème, c'est que plus personne ne veut de ces choses, vous avez dans la nature comme ça tas de choses qui ne valent plus rien. Si vous mettez par exemple un lit d'enfant premier prix IKEA sur le Bon Coin, ça coûte 10 euros aujourd'hui, ce qui est l'équivalent d'un plat du jour dans un restaurant.
Plus,
quoi.
Ouais.
Et donc vous avez des bonnes affaires partout, donc des gens qui sont tentés de faire des bonnes affaires en permanence. L'autre jour, je sors de chez moi, quelqu'un qui déménageait avait mis une grande caisse avec marqué « Servez-vous ». Et donc, j'étais obligée de faire des exercices de mentaux pour me freiner, pour me dire « Non, non, regarde, il y a des assiettes là, mais tu vas pas les prendre, c'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'il faut les prendre.
Ouais. » Ben alors là, ça réinterroge une question qui m'intéresse. Ça ramène le professeur d'économie au devant de la scène. Là, vous savez, on parle de valeur. Il y a une valeur d'utilité, une valeur d'usage. J'ai une vieille voiture. C'est pas mon cas, mais c'est un cas théorique. Elle a 250 000 km. Elle ne vaut plus rien. Si, elle vaut sa valeur d'utilité. Elle vaut sa valeur d'usage. Mais ça ne marche. Cette logique économique ne marche que quand on utilise le produit. Quand il dort, ça, c'est fini.
À partir du moment où, si vous, par exemple, vous avez un ordinateur et vous vous dites il vaut 600 euros, et puis tout d'un coup, il a 3 ou 4 ans, sur en occasion, il vaut plus rien, mais pour vous, si vous avez besoin d'en racheter un, ça va vous coûter la valeur d'un ordinateur neuf.
Bien sûr.
Donc en fait, on a du mal à accepter qu'à partir du moment où plus personne ne vaut nos affaires, et finalement, leur valeur, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on les a achetés. Et on observe ça très bien sur les vide-greniers, entre l'heure d'ouverture d'un vide-grenier et la fin de la journée. Où tout à coup, vous avez par exemple un siège enfant de voiture, quelqu'un qui vous dit « Ah non, je l'ai acheté 300 euros, donc je vous le revends 200 ». Personne n'est d'accord pour payer 200. À la fin de la journée, les personnes vous disent « Allez, je vous le fais à 10 et s'il vous plaît, prenez-le moi ». En fait, on se rend compte que ce qui a de la valeur, c'est d'avoir de la place chez soi. Les gens sont prêts à payer pour qu'on vienne chercher. Les débarrasseurs, ils arrivent chez des gens qui étaient persuadés qu'ils avaient des trésors chez eux au moment d'une succession, par exemple, et ils se retrouvent à se faire payer pour prendre les affaires qui restent.
J'ai Marie-Zévon Gépé. Vous connaissez Marie-Zévon Gépé. Elle est une grande championne française, elle une grande athlète, et elle est membre de la Dream Team de RMC. Elle m'envoie un petit mot. Voyez, on se parle quand même entre nous. Elle demande à ton invité quel est le nom de la manie inverse, à savoir faire systématiquement le ménage par le vide et ne pas supporter l'encombrement. Est-ce que ça a un nom, ça?
Alors,
Je
ne connais
c'est
pas le nom. J'ai rencontré une personne qui souffrait de ça, qui était en plus neuroscientifique, et donc elle disait que depuis l'enfance, quand on lui offrait des jouets, elle allait s'en débarrasser et qu'elle était terrifiée par l'idée que les objets soient l'enferme et soit une menace. Et elle disait, par exemple, moi je pense toujours, s'il y a un incendie, moins j'ai de choses chez moi, plus je suis proche de la sortie. Et donc elle se rendait compte que c'était une autre forme de toc, mais c'est quand même beaucoup plus rare, quoi.
Oui, c'est beaucoup plus rare. Alors moi j'ai une technique très simple. Il y a pas très longtemps, j'ai un bureau, j'ai stocké pas mal de choses, des archives sur des sujets sur lesquels je travaille depuis 20 ans. Je me suis dit il faut nettoyer parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de place, j'avais pas eu le temps de le faire mais je l'aurais fait bien avant. Et je me suis dit qu'est-ce que tu n'as pas consulté depuis un an ? Est-ce que c'est une bonne façon de faire ça ?
Pour moi, c'est un très bon repère de se dire ce que j'ai utilisé dans l'année. Et d'ailleurs, on parle toujours du rangement de printemps. On y est. C'est annuel, en fait. Pour moi, il faut mettre en place une bonne organisation de départ. Il faut suivre au quotidien. Et une fois par an, il faut refaire le point. Et ce qui n'a pas été utilisé dans l'année, c'est vraiment idéal de s'en séparer.
Donc c'est valable pour les vêtements.
Oui, oui. Pour beaucoup de choses. Hein. Et puis de toute manière, les activités, elles changent hein, d'une année à une autre. Les goûts changent. Votre morphologie, pardon, elle peut changer également. Donc pour moi, c'est un critère qui est à peu près valable pour tout.
Bien. Mais moi, je pense qu'il y a aussi plein de choses qu'on garde simplement parce qu'on est dans le déni sur la personne qu'on est. Exactement. Alors les vêtements qui sont trop petits, on les garde parce qu'on se fait croire qu'on va mincir la semaine prochaine.
Ouais. Je commence demain.
Les instruments de musique, l'équipement sportif, on va justement se remettre au piano demain, on va justement se remettre au squash la semaine prochaine. Donc en fait, garder les choses, c'est continuer à croire en la vie qu'on pourrait avoir. Donc c'est aussi ça qui nous coince.
C'est un peu un mythe, on construit des mythes. Hein.
Bah, y a un peu un manque de bon sens et de réalisme. Hein. Y a l'attachement au passé aussi qui passe dans
le
jeu. Hein.
On est les prisonniers d'une certaine façon de notre passé. Mais alors attendez, Michael nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Michael.
Oui, bonjour.
27 ans, tout jeune, exact. Tout neuf, hein, tout neuf. A priori, il doit pas y avoir beaucoup de stock à 27 ans, enfin j'espère.
Ah non, mais alors moi, c'est tout l'inverse. Je ne stocke rien, je ne garde rien. J'habite devant 17 mètres carrés qui est limite trop grand, tellement je garde très peu de choses. Et en fait, dès que ça n'a plus l'utilité, c'est plus, par exemple, les vêtements, dès que c'est plus à ma taille ou que ça ne me va plus, direct, il faut que ça sorte.
Ouais.
Je ne garde
très
peu de choses.
Ah, je comprends ça, moi. Ouais.
Est-ce qu'il a une famille de gardeurs?
Non, mais je crois que le fait de rien garder, je crois que je tiens ça de ma mère parce qu'elle était à peu près pareil que moi. Tous dans la famille, on est très organisé, on garde très peu de choses, on garde ce dont on a besoin, ce qu'on va garder, quitte à ce que ça serve dans plus ou moins longtemps, bah tant pis, on rachètera et puis en attendant, bah il faut que ça bouge, quoi.
Et vous avez un rituel, vous vous dites c'est chaque semaine, tel jour, je fais le tri, ou c'est un truc qui peut arriver à n'importe quel moment, il y a pas vraiment de fréquence là-dedans.
Il y a pas vraiment de fréquence, en fait c'est presque au quotidien, voilà, j'arrête une activité, enfin pendant un temps je faisais de la photo, bon bah dès que je me suis rendu compte que j'en faisais beaucoup moins, bon bah les objectifs sont partis sur le bon coin et l'appareil photo avec. Et puis s'il faut que je m'en remette, tant pis, j'en rachèterai un autre. Et puis voilà,
bien, Michael, bravo.
Sans pincement au cœur, à aucun moment, sur aucun objet.
Mais que tu t'en fous.
Mais attends, moi je suis contre cette histoire.
Si vous voulez se remettre à la photo.
Tes stylos, pour eux qui vont te balancer.
Voilà, moi je suis contre le critère absolu sur l'utilité. Moi je pense que la dimension affective est vachement importante. Qu'on ait envie de garder des colliers de pâtes de fête des mères, alors qu'évidemment qu'on les a pas portés. Mais les tiroir de chargeur, mais le Nokia, le chargeur Nokia 1994, il va pas nous resservir, ça c'est sûr, quoi. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'attachement affectif. Quoi.
C'est pour ça que tout est une question de catégorisation. C'est pour ça que nous, on intervient, c'est pour aider les gens à catégoriser par certains niveaux. Ce qui va vraiment être de l'affectif pur, très fort et très positif, on va créer des boîtes souvenirs. Voilà, mais il faut pas tout dans une certaine mesure, et aussi par rapport à l'espace qu'on a, ce sont des paramètres qui rentrent en compte. L'objectif d'un professionnel de l'organisation, c'est pas non plus de tout vous mettre, ça c'est un débarrasseur, c'est pas pareil. Nous on travaille vraiment sur le tri pour que les gens arrivent à faire des choix conscients, et aujourd'hui ils prennent pas le temps. Et en fait on parle beaucoup du rapport à l'objet qui est en train d'évoluer, on avait un rapport à l'objet qui était beaucoup plus solide, on utilisait la matière, aujourd'hui l'objet devient un peu liquide et il part, il rentre et il est plus du tout pareil, quoi.
Mais est-ce que c'est pas lié aussi à notre psychologie collective? En France, on aime l'histoire, on aime le passé, on est un peu dans le recueil de la mémoire. Hein, on est un peuple mémoriel, en fait.
Oui, on est probablement plus dans l'ancrage que les Américains, qui sont plus dans la mobilité.
Déménage, oui, c'est ça.
Mais ceci dit, même aux États-Unis, la mobilité a énormément baissé. C'est-à-dire que autrefois, les Américains déménageaient régulièrement, et aujourd'hui, nos choses nous empêchent de déménager facilement, parce que ça rend un déménagement beaucoup plus coûteux, l'idée qu'il y en ait des caisses en plus, l'idée qu'il faille tout transporter, qu'à l'époque on avait peu de choses.
Ça emprisonne.
Oui, ça emprisonne. Et toi, Amélie, tiens, tu gardes tes trucs, toi?
Oui,
ou pas?
Moi je garde tous les journaux. Mais tous les journaux.
Oh là là, ça prend la folle.
Mais donc après, je les mets dans des cartons.
C'est vrai, si Internet s'arrête demain.
Oui, je les mets dans des cartons, et par exemple, j'ai un carton avec tous les journaux de la présidentielle de l'année dernière.
Ah, mais tu les par séquence.
Oui,
évidemment, tu ne collectionnes pas les journaux.
Tous les 5 ans seulement.
Non, tous les journaux, mais les plus importants. Mais je dois avoir peut-être 200, 300 journaux.
Bon, ah oui, d'accord. Oui, bah écoute.
Elle en avait qu'au début.
En faisant le tri là dans mes affaires récemment, j'en ai jeté beaucoup, mais j'ai gardé un journal sur la chute de Timisoara. J'ai gardé un journal sur la chute du mur de Berlin. Un sur l'élection de Barack Obama. Un, je crois, sur l'élection de Donald Trump. Je dois avoir 3-4 trucs qui sont des Paris Match anciens. Mais ça, et boum, ça s'arrête là, ça tombe.
Mais ça, vous les avez pas consultés l'année dernière et c'est pas grave.
Non, mais ça, c'est plus, ça, c'est pas tout à fait des chargeurs, c'est pas, alors, c'est pas tout à fait des échantillons de Ricard ou de shampoing.
Ou la collection de savonnettes d'hôtel.
C'est ça. Qu'est-ce qui va différencier l'objet que l'on veut collectionner, enfin l'objet vraiment en fait, très affectif, de l'objet qui est complètement futile, parce qu'effectivement
la question de l'utilité elle est absolue, elle est absurde, parce que c'est ça qui fait garder les, qui fait que les gens gardent en se disant oui, un savon c'est utile, sauf quand
quand on est sale.
Oui, c'est vrai.
Sauf qu'un 43e mini savon d'hôtel, ça ne sert plus. Surtout quand on se dit que finalement on trouve qu'ils sentent pas si bon et que du coup on continue à en acheter au supermarché.
Ouais, le jasmin a tourné. Au bout de 4 ans au fond d'un tiroir, ça a tourné. Bon,
je pense que c'est là une question qui suffit pas. Il faut d'autres questions. Il faut poser la fréquence d'utilisation, l'attachement, etc. C'est-à-dire que nous, on pose jamais que la question d'utilité. On a 4-5 questions qu'on réitère et qui permettent de catégoriser. Et je suis d'accord que l'utilité seule, ça sert à rien.
Bien. Qu'en pensez-vous au 3216 et comment vous manifestez le brunimétrie?
Eh bien, je rappelle le brunimétrie. Vous gardez tout en espérant que cela puisse vous servir un jour. Pascal, lui, est partisan de jeter les objets inutiles et vous êtes 70% à penser qu'il faut jeter.
Bon, Edouard nous appelle et on le prendra juste après la pause. Il a 34 ans.
RMC Radio Brunet.
Est-ce que vous avez des messages à nous lire, les amis?
Oui.
Émilie, est-ce qu'il y a des témoignages? Trouvez-moi des trucs un peu drôles, là.
Oui, on a Patrick qui nous dit « Je ne garde rien ». Sauf ma femme, depuis 42 ans.
C'est le truc le plus... C'est la chose, enfin, non, c'est pas une chose, mais c'est le point le plus important, bien sûr.
Oui. Et on a Nathalie qui nous dit « Jeter est une torture pour moi, j'essaie pourtant, mais à chaque fois que je vais vider la remorque à la déchetterie, je suis en stress total et ensuite je ne sors plus de mon lit pendant des jours. Et pourtant, j'aimerais vider ce qui ne sert à rien et encombre mon environnement. »
Mais tu as des gens qui vivent dans un musée, c'est un musée personnel.
Tiens, tu parles de musée,
c'est un musée.
On a Laurent sur l'application Direct Studio, on a beaucoup de messages qui nous ont été envoyés aujourd'hui. Laurent qui nous dit, moi c'est ma femme qui me dit on peut pas jeter, ça peut servir. Bah alors on fait quoi? Eh ben mets-le à la cave. Résultat, ce n'est plus une cave, mais un musée de 35 ans de souvenirs. Bon, j'avoue que parfois je jette en douce. Alain nous dit, avant, comme mes parents, je gardais tout et après leur décès, lorsqu'il a fallu vider leur maison, j'ai pris conscience de l'accumulation de choses inutiles. Depuis, je fais le vide régulièrement. Michel qui nous dit, je garde tout, non seulement ça peut servir, mais les objets d'hier seront des témoins du passé dans quelques temps. Par ailleurs, jeter n'est pas une solution. Gardons et réinventons de nouveaux usages.
Et on a Karim qui nous écrit, pareil, je jette tout. Quand on garde les choses, on les range dans une boîte et 20 ans plus tard, on se demande pourquoi on a gardé tout ça. Et puis moi, ça me permet de me recentrer sur l'essentiel.
Morzini sur l'application Direct Studio nous dit, coucou Pascal, je pense que l'accumulation d'objets est générationnelle. J'ai 30 ans et ma copine 28 et nos mères respectives sont de vraies collectionneuses, je trouve ça insupportable.
Bon, oui, je crois qu'il y a aujourd'hui dans l'actualité un club qui a acheté son entraîneur.
Oui, c'est vrai.
C'est pas ça?
Enfin, c'est l'entraîneur qui a décidé de... Enfin, qui a annoncé son départ. On l'a peut-être un peu forcé.
C'est vrai.
Ensuite, pour continuer le débat.
RMC, Radio Brunet, Pascal Perry.
Édouard nous a rejoint pour parler de ceux qui gardent, ceux qui conservent. En politique, on les appelle les conservateurs, mais c'est parfois très bien d'être conservateur, parce qu'on peut conserver sa mémoire, son histoire, et ça peut être incarné à travers un certain nombre d'objets. Nous en parlons avec Guy Metfort, qui publie « Ça peut toujours servir » aux éditions Stock, avec Pauline Levasseur, qui est organisateur domestique, non, on peut dire ça.
Je parle d'organisation du quotidien.
Home office organizer, ouais, c'est la maison, le bureau, c'est ça. Vous êtes consultante en organisation et en rangement, fondatrice du réseau By Pauline, et Edouard donc est là. Bonjour Edouard.
Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe.
Eh bien, on vous écoute Edouard. Est-ce que vous gardez, vous? Est-ce que vous jetez?
Alors moi je suis plutôt partisan de garder et c'était ce qui a motivé la création de notre société jeStock.com, qui est une start-up qui intervient justement sur le marché de la conservation et du stockage.
De quoi? Conservation, stockage de quoi? De données, d'objets,
garde-meubles.
D'accord.
On est vraiment sur le garde-meubles.
D'accord.
On propose, par exemple, vous Pascal, vous avez un appartement à Paris, vous ne vous servez pas de votre cave, vous vous inscrivez sur la plateforme, on vous trouve des locataires autour de chez vous pour venir stocker leurs objets dans leur cave.
D'accord.
Donc effectivement, on assiste de plus en plus à un phénomène de conservation, de stockage. On est plutôt sur une logique sentimentale qu'une véritable logique économique. Mmh. On a des utilisateurs qui souhaitent louer des mètres carrés supplémentaires pour stocker leurs objets sentimentaux.
Bon, très bien. Un objet sentimental. Donc, Monsieur X prend contact avec moi ou Madame Y pour stocker des objets sentimentaux. Ça ne l'embêtera pas que ce soit stocké dans ma cave. Honnêtement, un objet sentimental dans ma cave, je vois pas ce qu'il a de sentimental.
C'est le côté affectif.
Je sais que ça dort chez Monsieur Perry, c'est bien, il y a pas de problème. Non, c'est ça.
En fait, ça évite d'avoir à prendre une décision.
Aujourd'hui, on est dans les centres urbains où le mètre carré est de plus en plus cher, donc on n'a plus les mètres carrés disponibles pour stocker. Donc, les utilisateurs cherchent des solutions à proximité.
Moi, en même temps, là, par exemple, en venant jusqu'ici, je suis passée à côté de deux sociétés de stockage, et je trouve ça horrifiant l'idée qu'il puisse y avoir des bâtiments occupés par des choses, par simplement les choses qu'on veut plus avoir chez soi, qui occupent des immeubles à nos places. Aux États-Unis, il y a plusieurs villes maintenant qui ont passé des lois pour interdire la construction, enfin pour encadrer la construction de nouveaux bâtiments de stockage, en disant que c'est parce que en fait ces bâtiments, ça fait des bâtiments dans lesquels il y a pas de gens qui travaillent, il y a pas de gens qui habitent. C'est juste les choses dont on veut pas chez nous qui sont en train de prendre de la place dans nos villes. Et je trouve cette idée vraiment inquiétante.
Je vous rejoins tout à fait sur cette idée-là. C'est pour ça qu'on a développé ce service-là. Parce que mobiliser des mètres carrés, du foncier pour stocker des objets qui n'ont plus d'utilité, autant utiliser les mètres carrés qui ont déjà été construits, qui sont généralement laissés vacants ou à l'abandon. C'est toute la logique, en plus, dans une logique écologique, parce que ces centres de stockage dont vous faites référence sont souvent à l'extérieur des centres urbains, sur les grands axes routiers, où la voiture est un besoin vital pour pouvoir y accéder.
Pauline Levasseur, tout à l'heure vous parliez d'achat compulsif. On n'achète pas un peu trop parfois ou un peu trop à la légère?
Si, c'est vraiment un des défis du monde à venir. On en parle de plus en plus. Le rapport à l'objet est en train d'évoluer et en fait on n'achète pas intelligemment. C'est-à-dire qu'on achète de plus en plus à l'impulsion sans réfléchir. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile? Et ça c'est très important. Vous parlez d'écologie, mais l'écologie elle est plutôt là. Elle est plutôt dans l'achat réfléchi. Lié vraiment aux besoins.
Derrière les produits que vous achetez, peut-être de façon compulsive, il y a des salariés, il y a de la création de valeur. C'est pas une équation simple. Par là que ça nous engage dans un chemin de maîtrise de la croissance, voire de décroissance.
Enfin, pour le coup, il y a souvent des salariés qui sont en Chine exploités. Donc c'est même pas vraiment de la création de valeur quand on achète d'autres.
Oui, enfin ils sont peut-être exploités, mais ils travaillent en Chine. Ils travaillent. Attendez, c'est un débat intéressant parce que on peut dire, est-ce qu'on fait bosser les enfants? Bon, vous voyez, honnêtement, j'ai pas la réponse. Je me pose la question. Je sais que quand j'achète dans telle ou telle enseigne, il est possible que, ça a été fait par des enfants. Mais s'ils ne travaillaient pas, ils feraient quoi? Rien.
Mais la question qui se pose, c'est aussi la question. Enfin, quand on parle de la création de valeur, mais pour le coup, pourquoi apporter ses chaussures chez le cordonnier ce serait pas plus de la création de valeur que d'acheter des chaussures neuves venues de Chine à peu près au même prix. Et donc, je pense qu'à chaque fois qu'on fait des choix comme ça, on privilégie une économie sur une autre. Donc, c'est intéressant. Et par ailleurs, c'est pas seulement la question. Le problème, c'est qu'on n'est même plus seulement dans la question des achats pour rien, c'est la question aussi des gratuits. Enfin, n'importe quel parent qui voit des enfants revenir d'une kermesse d'école, mais c'est dramatique. Enfin, le nombre d'endroits, et là, même quand on est adulte, on n'arrive pas à résister à des cadeaux. Quand vous regardez des conventions, des salons, il y a les tote bags, c'est nouveau, sac en tissu. Le nombre de sacs en tissu chez vous. Et les sacs en tissu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a un côté équitable, parce que c'est du tissu. Mais non, mais ça n'a pas de deuxième vie. Enfin, Vous en utilisez un pour les culottes, un pour les chaussettes, et après, vous n'allez pas partir au marché avec 10 sacs en tissu sur les bras.
C'est vrai.
Donc, arriver à résister au côté « Oh, mais c'est gratuit, je l'emporte », c'est vachement important aussi.
Il faut responsabiliser cette notion d'utilisation et de rapport à l'objet.
Bien sûr. Édouard, que vous disent les gens qui viennent vous trouver? C'est quel genre de discours?
Le discours, on est vraiment sur le refus de jeter. Le côté on conserve tout, ça pourra toujours servir. Un de vos auditeurs tout à l'heure faisait le qui avait un garage en Gironde nous disait que il refusait de jeter en disant que ça pourra servir plus tard. Mais on se retrouve dans ce cas-là avec ces personnes qui vont garder des poussettes, des lits de bébé, un matelas, le matos de ski des années 90 qui ne servira jamais mais qu'on souhaite quand même conserver.
Mais est-ce que nos enfants seront comme ça? J'étais frappé de voir par exemple que avec une grande enseigne de l'ameublement qui vend des meubles en kit, c'est une enseigne d'origine suédoise, les meubles ne sont plus des éléments de patrimoine mais des éléments mobiliers simples, c'est-à-dire que on n'achète plus un produit. Nos parents ou nos grands-parents achetaient le bahut en merisier pour la vie et espéraient le transmettre à leurs enfants. Avec IKEA, on achète des meubles pour l'année pratiquement. On est dans le jetable.
Ou le meuble est moins cher que le fait de le déménager.
Ou c'est une commodité. Oui, c'est devenu ce que les économistes appellent une commodité, ça n'a pas de valeur.
Pour ce livre le service des encombrants de Paris pendant toute une matinée et c'est effrayant. C'est que des étagères des étagères, des tables, des lits, des borseaux de lit, et puis énormément de matelas qui sont comme ça livrés en kit et où on se dit non, bah finalement est-ce que ça vaut la peine de le déménager, personne veut le récupérer et donc on en prendra un autre de l'autre côté. Le service des encombrants de Paris, ils ont un taux d'augmentation des dépôts qui est simplement incroyable. Je me souviens plus des chiffres exacts mais je crois que c'est plus 30 ou 40%.
Et donc oui, les générations futures, est-ce qu'on peut les éduquer justement?
Mais ce que je trouve fascinant, c'est que quand on parlait de conflits d'héritage, avant on était habitué à ce que les gens se disputent dans les familles pour avoir les choses.
Maintenant
vous avez des gens qui se disputent pour pas les avoir. C'est-à-dire que vous avez une génération de parents qui dit à ses enfants, on t'a gardé un réveil radio pour quand tu seras étudiant. Alors un réveil radio, dites ça à quelqu'un qui a un smartphone, donc qui regarde leurs parents en disant mais vous êtes gentil, mais non vous pouvez le garder. Et donc vous avez maintenant des conflits entre générations pour les choses. Par exemple, ceux qui partent de la maison, qui laissent 2-3 caisses d'affaires, demandez à vos auditeurs, 2-3 caisses d'affaires chez les parents en disant je viendrai les chercher dans quelques temps.
Mais j'ai des enfants, je vois de quoi vous parlez.
Ils sont jamais venus chercher les affaires.
Et qu'il y a pas de... En fait, maintenant, les gens se battent pas pour prendre les choses, mais pour les laisser. Mais comment? Enfin, tu vas quand même garder la robe de mariée de maman.
Bon, alors, merci beaucoup Edouard. Nathalie nous appelle de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
53 ans, et alors vous faites partie de ceux qui gardent tout?
Ah, moi oui, au grand désarroi de mon mari.
Bon.
parce que même il m'arrive de récupérer sur les trottoirs des encombrants que les gens y jettent.
Non.
Des fauteuils que je refais, que je restaure, n'importe quoi.
C'est de la transformation là, vous les transformez, vous les revendez ou pas?
Non, parce que j'ai une maison.
Une grande maison?
Une maison de vacances. Je ressors mais même tout, un vieux pain, je vais récupérer des boutons.
Ah oui.
N'importe quoi. Et ça vient de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait toujours peur de manquer.
Ben oui.
Parce que bon, ils ont connu la guerre et elle nous a toujours habitués à tout garder.
Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce que vous gardez? Parce que c'est la vraie question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent on garde, ça peut servir. Mais la grande difficulté qu'on se rend compte, en tout cas moi je me rends compte chez la plupart de mes clients, c'est qu'ils ne retrouvent pas toujours ce dont ils ont besoin.
Ah, ça c'est un bon argument ça. On a tellement de trucs qu'on n'arrive plus à les trouver.
Et oui. Ah mais moi, même les boutons, on a des boîtes et ils sont cassés par couleur.
Voilà, bah alors vous êtes une exception, parce que la plupart des gens qui gardent, c'est pas du tout catégorisé, trié et rangé, et donc ils peuvent pas réutiliser.
Nathalie.
Oui.
Vous êtes malade, Nathalie. Vous êtes malade, il faut vous soigner, Nathalie. Hein?
Oui, non, mais c'est... En plus, moi je suis couturière, je suis de métier.
Ah, bah voilà.
Mais voilà, il faut que je garde, je ne sais pas jeter. Alors tout à l'heure, vous parliez d'héritage, maison d'héritage. J'ai hérité de mes parents parce que mes parents sont décédés tous les deux et ma grand-mère pareil. J'ai tout récupéré. J'ai pas pu me débarrasser des choses.
D'accord. Bon, ben écoutez, merci pour ce témoignage. Bon week-end dans les Bouches-du-Rhône à Martigues. Au revoir Nathalie. Jocelyn est de Loire-Atlantique. Il a 25 ans. Bonjour Jocelyn.
Bonjour à tous, merci beaucoup.
Bon, vous aussi vous récupérez tout à 25 ans, qu'est-ce que ce sera à l'âge de
Jocelyne? Hein? Ah oui, effectivement, je récupère tout. C'est vrai que je vois en beaucoup de choses une valeur en fait. Et du coup, bah, je suis un peu comme l'autre auditrice, là, Nathalie, qui range tout. Donc, bah, je passe mon temps à jouer à Tetris chez moi pour tout ranger parce que je sais que ça va servir. Et bah, je jette quand même, ça m'arrive de jeter parce qu'il y a des trucs qui servent vraiment à rien.
Vous savez que ça va servir. J'aime beaucoup la formule, Jocelyn. Vous imaginez que ça peut servir.
Oui, c'est pas pareil. Ça peut servir, mais des fois ça sert. Et quand vous parliez tout à l'heure des chargeurs de téléphone, ça m'est arrivé pendant. Bah, à chaque fois que j'allais à la déchetterie, j'en récupérais.
Au lieu de déstocker à la déchetterie, Jocelyn, il en fait le plein. Non mais attendez.
Mais du coup, c'est pas un tiroir que j'ai, c'est des caisses qui sont rangées et c'est rangé par marque. Et je sais que quand les copains ils viennent, ils me demandent si j'ai pas tel ou tel chargeur. Je l'en sors et ça me fait une satisfaction incroyable.
Ouais. Donc si on a besoin d'un chargeur de BlackBerry de 1999, on sait où aller chercher.
J'ai.
Ah, il a Jocelyn. Ça fait de lui l'homme le plus populaire de son petit groupe.
Et je suis persuadée que dans votre vie numérique, c'est pareil. Parce que j'ai remarqué que les gens qui stockent en vrai, stockent aussi en virtuel. C'est-à-dire que les ordinateurs, les disques durs d'ordinateurs sont toujours remplis à 80%. Les batteries les chargeurs, je veux dire, de téléphone sont aussi toujours à 80%. C'est comme si, en fait, on remplit nos tiroirs simplement parce qu'il y a la place et on remplit les disques durs parce qu'il y a la place.
Exactement. Tant qu'il y a de la place, bah, on peut stocker.
Bon, merci beaucoup Jocelyn. Bonne journée.
Et merci à vous.
Au revoir.
Est-ce que je peux poser une question à Pauline Levasseur, moi qui suis un petit peu flemmard hein, pour des sessions
tu veux
rangement.
Le tri, je sais
que ça peut durer, que ça peut 8.
Oui, c'est très long.
On va partir pour 4h, 5h. J'ai la flemme déjà rien d'y penser. Est-ce qu'on peut donner des petits conseils pour essayer de nous motiver? Qu'est-ce qui peut nous pousser à avoir un petit regain de motivation avant de faire le tri?
Alors, il y a déjà une chose, c'est qu'il faut se projeter et tous nos clients nous le disent, c'est le bien-être que ça vous procure après. Ouais. C'est-à-dire que quand on vide son espace, on vide aussi un peu sa tête. Et si on se focus sur le bien-être qu'on a après, c'est déjà une bonne motivation.
Donc réfléchir à quoi notre maison va ressembler après avoir
fait
le rangement.
Exactement. Ah, ouais. Faire un focus sur le bien-être apporté par le rangement, le tri et le désencombrement. Ça, c'est premier point.
Et envisager aussi les scénarios du pire. Parce qu'en fait, souvent, quand on garde quelque chose, on se dit oui, mais si j'en avais besoin. Ouais. Alors qu'en fait, bah, si on l'a jeté, devinez, si vous en débarrassez, bah oui, vous allez trouver un deuxième porte-manteau en fer du pressing. Vous allez en trouver aussi très facilement, même si vous en avez donné.
Bon. Merci à toutes les deux. Merci Guy Medford, journaliste chroniqueur à M, pour votre bouquin. Ça peut toujours servir chez Stock. Merci à Pauline Levasseur qui a également publié Range ta vie. Range ta vie chez Larousse. Il est où ce... Ah, très bien. Elle a, Range ta vie, c'est son job. Hein. Vous êtes consultante en organisation et en rangement. Home Office Organizer. Merci à tous ceux qui ont participé à cet échange intéressant. Vous voyez, c'est un petit sujet, mais qui en dit long sur ce que nous sommes, finalement. Sur notre rapport aux objets, à la consommation, à nous-mêmes, à notre histoire. L'être mémoriel. Derrière le consommateur, il y a un être mémoriel. Voilà une conclusion très philosophique. Allez, vas-y, Émilie, pour le brunimétrie du jour.
Eh bien, pour ce résultat final, vous êtes une majorité à être d'accord avec Pascal, puisque vous êtes 65% à penser qu'il faut jeter les objets inutiles.
Benjamin,
dans un instant, comme chaque vendredi, le conseil pratique de nos amis notaires, notre maître Antoine Dejoie va répondre à une question que se pose Fanny, une auditrice, concernant la donation, l'héritage. Oui. Est-ce qu'il est possible de redonner des parts?
Voilà. Mais ça va être compliqué. Donc, il vaut mieux s'accrocher.
Mais oui, on va y arriver, t'inquiète pas, comme chaque vendredi. Eh ben, tout de suite pour en parler avec Maître Dejoie.
RMC, Radio Brunet, Pascal Perry.
C'est la dernière ligne droite de Radio Brunet. Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Dejoie. Maître Dejoie, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes notaire à Vertou, en Loire-Atlantique, vice-président du Conseil supérieur du notariat. Et donc, nous avons ce cas de figure que Benjamin explique ou expliquait. Mon frère Aurélien et moi-même, alors je m'appelle Fanny, là en substance, avons hérité d'une petite maison il y a 2 ans. Jusqu'alors, elle était en vente, mais aujourd'hui, il souhaite finalement la conserver. Quant à moi, je ne souhaite pas conserver mes parts de propriété pour ce bien. Je désirerais donc lui céder sans retirer de profit de cette transaction, parce que quand même c'est la famille. Donc quel moyen serait le plus avantageux pour nous, maître?
Ah, le moyen, c'est pas évident, mais ce qui est amusant, c'est de noter qu'au fond, dans cette affaire, il y a, comme dans le sujet précédent, un rapport à l'histoire. Parce que Fanny, si elle vendait la maison avec son frère, elle était prête, au fond, à recevoir sa part, sa moitié du prix. Ouais, ouais. Et parce que c'est son frère qui va l'acheter, elle se dit non, je reçois pas d'argent de mon frère pour une maison de famille.
Ouais.
Alors justement, qu'est-ce que c'est ça? C'est abandonner sa part à son frère, c'est quand même bien une donation. La vente à l'euro symbolique, non, c'est pas possible. On doit se résoudre à considérer qu'elle veut lui donner sa part et ça va engendrer, parce qu'ils n'ont comme lien que le lien de frère et sœur, ouais, c'est pas ouais, un lien ouais. fiscalement aussi net que celui des descendants par rapport à leurs parents, il va y avoir une fiscalité successorale qui sera fonction de la valeur du bien.
Ouais. Alors ça veut dire que l'État n'oublie personne, ni rien, aucune situation.
Alors surtout lorsque le lien n'est pas dans le lien n'est pas ascendant ou descendant. Lorsque les enfants héritent de leurs parents, ils ont des abattements relativement importants. Ça dépend bien sûr du nombre d'enfants, puisque ça se multiplie par enfants et du montant du patrimoine. Mais entre frères et sœurs, c'est pas le maximum, c'est pas 60%, mais ça monte assez vite à 35%,
Et
puis après c'est 45%. Oui, mais quand même, c'est pas négligeable.
Donc
c'est
finalement, si je me résume, Maître Dejoie, on ne peut pas échapper à la fiscalité, là, en tout cas à la fiscalisation de la transaction.
Non.
Rien n'est gratuit, le gratuit n'existe pas.
Non, mais si Fanny y avait pensé tout de suite, mais là, évidemment, on reproche pas, puisque c'est la circonstance, mais si Fanny avait pensé dès le début à ça, si les circonstances avaient permis d'y penser, elle aurait pu renoncer à la succession, et son frère aurait hérité seul. Alors, ça aurait pu poser des questions si Fanny a sens, ce qu'on ne sait pas. Alors, bien sûr, il y avait des éléments à vérifier. Et puis, peut-être, y a-t-il d'autres biens? Par exemple, il y avait un compte en banque dont Fanny a touché la moitié, auquel elle voulait renoncer. Donc, cette idée d'éventuelle renonciation à succession, peut-être qu'elle ne correspond pas au cas qui nous est présenté.
Bien, merci beaucoup, Maître Dejoie. Je vous souhaite une bonne journée.